Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Grande figure de l'Église universelle, Sainte Thérèse d'Avila a vécu en Espagne entre 1515 et 1582. Entrée à l'âge de 20 ans au Carmel, Thérèse de Jésus, c'est son nom, découvre dans la prière silencieuse l'oraison, le lieu de l'amitié et de l'intimité avec le Christ. Canonisée en 1622, elle est proclamée docteur de l'Église en 1970 par le pape Paul VI. La Grande Thérèse écrit en 1577 le château intérieur. Nous allons explorer les 7 demeures qui y sont décrites. Le livre des demeures ou le château intérieur, ouvrage majeur de Sainte Thérèse d'Avila, détaille 7 étapes de la vie mystique. Quelles sont-elles? Le frère Benoît-Marie Carme au couvent de Toulouse nous accompagne dans ce cheminement. Bonjour frère Benoît-Marie.
Bonjour à vous.
Avant d'entrer dans le détail de ces 7 demeures, posons quelques repères si vous voulez bien. Qu'a voulu transmettre Thérèse d'Avila à travers cet ouvrage du château intérieur?
Tout simplement le récit de son amitié avec le Christ. Une amitié tendre et puissante, et ce qui explique différentes demeures, eh bien une amitié qui évolue et qui se caractérise par différents aspects variables au fur et à mesure des demeures.
C'est un peu comme un journal intime, on pourrait dire.
Il y a quelque chose de son expérience, donc il y a quelque chose d'un journal intime, donc tout ce dont elle parle, elle l'a vécu. Mais elle a reçu du Christ la mission d'en faire part à toute l'Église et elle a la prétention, quand elle en parle, de relater, de décrire l'évolution de toute âme vers le Seigneur.
Donc vous voulez nous dire finalement, frère Benoît-Marie, que ce cheminement qu'a fait Thérèse d'Avila, oui, il est finalement à la portée de tous, ou en tout cas chacun, chaque chrétien est appelé à suivre un tel cheminement?
Oui. Avec du plus ou du moins, c'est-à-dire que chacune des descriptions qui sont faites à chaque étape ou à chaque demeure ne seront pas vécues de manière exhaustive par tous, mais chacun vivra un petit peu, en tout cas les traits essentiels de ces différentes demeures, jusqu'à la demeure ultime qui sera la sienne.
Qui sera l'union à Dieu.
Et voilà, la 7e, c'est la sainteté, c'est le mariage spirituel, c'est l'union complète à Dieu, à la fois de la volonté et puis de l'intelligence et je dirais la pacification de toute la sensibilité qui est complètement ordonnée à Dieu elle aussi.
Alors évidemment, on va essayer d'y arriver à cette 7e demeure. Comment la Grande Thérèse a-t-elle rédigé ce livre ?
Comment est-ce qu'elle l'a rédigé? Elle voulait, d'abord, elle en a reçu à chaque fois l'autorisation, sinon l'obligation, par ses pères spirituels. Et puis, elle avait le souci, au moment de... Donc, dans cette Espagne de la contre-réforme catholique, donc au XVIe siècle, où elle réformait le Carmel, qui allait devenir le Carmel déchaussé, ou réformée, elle avait le souci de transmettre la substantifique moelle de son expérience intérieure voulue par le Christ à ses sœurs réformées. Alors il y a un autre ouvrage où elle s'adresse vraiment spécifiquement à ses sœurs, c'est le chemin de perfection, mais là dans les demeures, elle s'adresse quand même de manière privilégiée à ses sœurs, pour leur faire comprendre par quelles étapes elles vont passer, et surtout, c'est ça l'intérêt, comment s'y disposer.
Oui, c'est ça, parce que évidemment, c'est quand même mieux de savoir comment se préparer aux étapes successives. À quoi Thérèse d'Avila fait référence quand elle parle du château?
À l'âme. Si vous voulez, l'âme est une réalité immatérielle, et donc difficile à décrire, mais qui est vraiment en interaction avec le corps, et c'est vraiment le lieu de l'union à Dieu. Et si vous voulez, il y a au cours de la maturation de la vie chrétienne différentes manières de se tenir dans son âme, si vous voulez. Et Thérèse se dit, eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir représenter, si vous voulez, cette manière de se tenir dans son âme qui évolue. qui évolue par des effets de la grâce, hein, qui enrichissent l'âme, qui la transforment, eh bien, je vais comparer l'âme, réalité immatérielle, eh bien, à une réalité matérielle qui parle à mes contemporains, à savoir un château fort, à l'extérieur duquel c'est la vie sans Dieu, c'est le péché mortel, et puis à l'intérieur duquel, au centre duquel il y a eh bien, la présence de Dieu, Trinité. Et donc toute la démarche va être de se tenir de plus en plus proche de cette demeure intérieure, déjà de quitter le péché mortel, et puis ensuite, au fur et à mesure des étapes de la vie spirituelle, de quitter de plus en plus le monde de l'extérieur, le monde de la sensibilité, pour se concentrer vers le cœur de l'âme, où le Dieu Trine est présent. Voilà.
Mais alors, quitter le monde extérieur, est-ce que ça veut dire que c'est réservé au... Enfin, on pourrait se dire que c'est réservé justement aux carmélites qui sont complètement en retrait du monde.
Non, parce que vous avez la Trinité présente en vous, voilà, par le baptême. Vous avez l'inhabitation trinitaire, à partir du moment où vous êtes baptisé. Donc... voilà, donc simplement, les carmélites vont utiliser d'autres manières de progresser vers le trine que vous.
Mmh.
Voilà.
Tout simplement.
Tout simplement, et quitter, si vous voulez, le monde extérieur de la sensibilité pour se, de plus en plus, au fur et à mesure de sa vie, se concentrer vers le seul essentiel qui est à l'intérieur, qui n'est pas sensible, Dieu, bah, c'est le cheminement de toute sanctification. Donc de tout baptiser.
Si ici on garde, frère Benoît Barry, cette image du château, à quoi correspondent les demeures? Est-ce que ce sont des étages? Est-ce que ce sont des pièces? Est-ce qu'on imagine un colimaçon pour arriver au cœur du cœur?
On l'imagine comme on veut. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Thérèse veut dire qu'il y a, au fur et à mesure que le chiffre des demeures augmente de 1 à 7, il y a une progression vers l'intérieur. Voilà. Et il y a une autre image qui peut aider à comprendre ce que dit Thérèse, c'est que l'âme, c'est un peu plus trivial et moins élégant, mais peut-être plus parlant pour nous et plus simple, l'âme est comme un oignon dont la surface extérieure est le monde sensible ou les interactions avec le monde sensible. La surface, la couche médiane est... l'intelligence et la volonté, donc des facultés directrices. Et puis à l'intérieur, au cœur de l'oignon, il y a la substance de l'âme avec Dieu présent. Et voyez, cette intelligence et cette volonté, au début, eh bien, vont chercher les informations pour la vie tout court, même pour la prière, pour tout. Eh bien, elles vont chercher les stimuli à l'extérieur, elles vont chercher des biens sensibles. Et puis, sur ces deux facultés d'intelligence et de volonté, vous avez, par le baptême, deux vertus théologales, la foi et la charité, qui vont se greffer respectivement sur l'une et sur l'autre, et elles qui sont tournées vers l'intérieur, vers Dieu Trinité, qu'elles rejoignent par des actes de foi aimante. Et on est un, et donc tout au long de notre évolution, eh bien, Dieu, de plus en plus, va solliciter notre intelligence et notre volonté par la foi et la charité vers l'intérieur. Mmh. Et au terme d'une vie chrétienne, je dirais, parvenue à son achèvement, à la sainteté, en fait, l'âme n'a plus un recours. Bien sûr, elle vit, elle évolue dans un monde sensible, mais elle va chercher les informations et elle cherche des biens qui sont à l'intérieur. Mmh, elle passe par l'intérieur pour aller à l'extérieur, d'une certaine manière.
Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et alors, quand vous parlez de ce monde sensible, on a l'impression que c'est un obstacle au cœur à cœur avec Dieu.
Alors, c'est une étape. C'est-à-dire que il y a deux grandes étapes dans la vie spirituelle que détaillent finalement les sept demeures. Et si vous voulez, les trois premières demeures qui correspondent à la première étape des deux étapes de la vie spirituelle, eh bien, si on considère qu'il y a trois dimensions dans la vie, la dimension morale, la dimension intellectuelle et la dimension, je dirais, spirituelle ou de prière, eh bien, jusque dans la prière, je vais recourir à mes sens. Je vais lire un texte. Mmh. Et après, je vais chercher à m'en abstraire pour rejoindre le Seigneur. Voilà. Et cette étape est nécessaire. On peut, de manière un petit peu je dirais, synthétique et en raccourci, la considérer comme l'étape ou la phase méditative. C'est-à-dire que dans ma prière, eh bien, si j'isole comme dimension essentielle la dimension de la prière, eh bien, dans ma prière, je vais avoir besoin de recourir à mon intelligence, mais à partir d'informations qui lui sont extrinsèques, un texte biblique, une image. Et à partir de ces informations extérieures, alors je vais poser ensuite des actes de foi pour aller à l'intérieur. Et puis, il y a un moment donné où eh bien, l'âme va directement chercher, et c'est la deuxième étape de la vie contemplative, elle va plus chercher les informations, ou plus trop, ou plus pas d'abord, les informations à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est la phase contemplative, c'est la phase où Dieu prend les manettes.
Ah oui, c'est ça.
Et donc,
ouais.
C'est Dieu qui va la titiller vers l'intérieur, qui va la titiller. Donc, elle va d'elle-même abandonner, si vous voulez, la relation au monde sensible pour sa prière au moins. Et va privilégier, va se laisser attirer le plus possible vers l'intérieur, où Dieu l'attire.
Mmh. Est-ce qu'il y a un modus operandi pour passer d'une demeure à une autre, Frère Bonhomme-Marie ?
Alors, le don de soi. C'est-à-dire que c'est toujours la grâce qui va m'amener à progresser, qui va m'amener d'une demeure à une autre. Autrement dit, c'est pas mon évolution.
C'est pas ma propre vertu.
Bien sûr que non. C'est vraiment la grâce qui m'attire à elle et qui me transforme et qui m'enrichit. Et puis, il y a une espèce de processus d'accélération. Voilà. Mais il faut que je réponde à ce don de Dieu. Et Thérèse dit, Dieu est le bien diffusif de soi. Il est donc la générosité même. Et avec saint Jean de la Croix, elle se pose la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de saints? Pourquoi il y a aussi peu de personnes qui sont aux septièmes demeures? Et elle de dire, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient donc du manque de générosité des âmes. Et donc, pour répondre à votre question, comment passer d'une demeure à une autre? Eh bien, en se donnant toujours plus. En réponse au don de Dieu. Dans la grâce.
Oui, bien sûr. Oui, parce que Dieu, c'est en fait, c'est lui qui choisit entre guillemets le passage d'une demeure à une autre, et il faut être réceptif et se donner nous-mêmes. En fait,
oui.
Se donner soi-même.
Dieu, il cherche à nous attirer à lui.
Oui, bien sûr.
Et après, Thérèse a reçu cette grâce de caractériser, si vous voulez, les aspects, les dimensions spécifiques, les traits spécifiques de chaque demeure, pour aider les âmes à se comprendre. Et pour aider les religieuses carmélites du XVIe siècle et des siècles suivants à se comprendre, et pour aider les carmes qui accompagnent à comprendre les âmes qui veuillent bien se confier à eux.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire pour autant que finalement les sept demeures, elles sont présentes en chacun de nous, en chacune de notre âme, et finalement c'est Dieu qui nous donne cette possibilité de progresser?
Oui, dans la mesure où l'image de la demeure ou l'image du château, c'est, si vous voulez... si vous voulez, c'est la vie divine qui est rejointe par une liberté. Voilà. Donc, tout baptisé à la vie divine, en courant continu. Le non baptisé, c'est de l'alternatif. Et tout le monde est libre, avec plus ou moins. Et justement, un des effets de la vie spirituelle, c'est de nous libérer de toutes les affections qui nous empêchent d'aller à Dieu, et donc de nous libérer d'une trop forte emprise du monde sensible par rapport au monde rationnel et au monde surnaturel.
Oui, c'est ça. Alors, on va commencer, hein. Oui. On va entrer dans ces demeures. La première, elle correspond à l'entrée dans la vie spirituelle.
C'est ça. La première demeure, Thérèse dit que... l'âme qui quitte le péché mortel, eh bien, rentre dans le château. C'est-à-dire qu'elle rentre enfin dans son âme. Elle accepte enfin d'habiter à l'intérieur d'elle-même, puisque finalement, l'intérieur d'elle-même, l'intérieur d'une âme, c'est la relation à Dieu, son créateur et sauveur. Voilà, donc effectivement, la première demeure, c'est tout simplement l'âme qui quitte son péché mortel et qui commence une vie d'amitié avec Dieu.
Et concrètement, ça se passe comment, ça ?
Concrètement, bah alors là, il y a différentes autant
de manières que de
personnes.
Oui. Vous qui faites beaucoup d'accompagnement spirituel, est-ce que vous auriez
Je vais faire deux catégories
oui.
un peu restrictives, un peu,
oui.
Voilà. Il y a le bon catho qui a eu la chance d'avoir une famille chrétienne, donc qui a tout reçu, en tout cas au niveau
Des sacrements,
et puis qui a été, dont l'intelligence a été éveillée à la présence de Dieu. C'est pas rien quand même, hein, cette culture qui, c'est un gain de temps. Hein, on peut toujours dire que c'est merveilleux de se convertir, n'empêche qu'il y a du temps perdu, et que si Dieu est vraiment le Dieu souverain et le meilleur bien, que de temps perdu. Voilà.
Ouais.
Bon, Dieu, les ouvriers de la 11e heure ont la même chose que les ouvriers de la première, mais quand même. Voilà. Donc, il y a, voilà, et ce chrétien qui a tout reçu, bon, qui peut commettre des fautes graves, donc il y a le sacrement de la réconciliation, qui est le premier lieu pour sortir du péché mortel. Voilà. Donc je me confesse, là je suis, ma relation avec Dieu est restaurée, et je peux à nouveau cheminer vers Dieu. Voilà. Et puis le deuxième cas de figure que j'ai évoqué déjà, c'est le converti.
Le converti.
Voilà, le converti qui n'a rien reçu ou qui a laissé en sommeil ce qu'il avait reçu. Mais vous savez que, voilà, alors il peut être baptisé ou non baptisé. S'il est baptisé, eh bien, la grâce a dormi, mais elle cherche à se révéler, à se diffuser. Hein. C'est lié au... Enfin, c'est quand même un organisme vivant, si je puis dire.
Mmh.
Donc la vie cherche à se répandre. Et puis, s'il n'a pas été baptisé, eh bien, la grâce prévenante, eh bien, vient solliciter dans le cœur du non-baptisé le désir d'une union plus grande dans le baptême.
Mmh. Oui, c'est ce que vous disiez quand c'était comme une espèce de courant alternatif, c'est ça ?
C'est-à-dire que, il y a bien quelque chose de très différent entre une âme non baptisée et une âme baptisée. Une âme baptisée, elle est unie à la Trinité en permanence. Une âme non baptisée, ça peut choquer, mais une âme baptisée, Dieu vient la visiter. Sinon, elle ne pourrait pas désirer un jour être baptisée.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
C'est ce qu'on appelle la grâce prévenante.
Mm.
Voilà. Mais pas avec
la même intensité.
Voilà, la même intensité. Mm. Et puis, il y a quelque chose de différent, même ontologiquement. Hein, l'âme qui est graciée, elle est transformée. C'est-à-dire qu'elle est mise au niveau de Dieu, le saint et l'absolu, le très grand, pour rentrer en relation avec lui. Elle est équipée pour rentrer en relation avec lui de manière facile, voilà, à travers l'acte de foi et de charité. Une âme qui n'a pas cet adaptateur et cette source en même temps, eh bien, a plus de mal.
Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que c'est ce qui explique aussi le passage à la deuxième demeure, qui est quand même un temps de purification ?
Alors, il y a bien sûr des purifications, mais à cette étape, il y a surtout, si vous voulez, une volonté qui est en train d'identifier le bien. Vous savez qu'au fond, ce qui nous meut, c'est la quête du bien, c'est la quête du bonheur. Donc, à la première demeure, je romps d'une manière ou d'une autre avec le péché mortel, avec la coupure avec Dieu.
Et puis j'ai ce désir d'entrer
qui grandit. Mais à cette étape, et pendant les trois premières demeures, la théologie classique dit la grâce apporte un secours général, c'est-à-dire en sous-main à l'âme, qui doit faire beaucoup d'efforts, dit Thérèse d'Avila, pour organiser sa vie enfin comme Dieu le désire, c'est-à-dire autour de lui.
Oui,
voilà.
Donc par la fidélité,
oui. Et c'est la deuxième demeure, je suis attiré par Dieu, et maintenant, Dieu qui était encore dans la première demeure un bien parmi d'autres, eh bien, m'apparaît de plus en plus comme le bien vers lequel je dois ordonner toute ma vie.
Mm.
Voilà. Et donc, c'est je structure ma vie, je commence à, dans ma vie de prière, à prier le moins irrégulièrement possible. Dans ma vie morale, quand je suis un jeune et que je sors en boîte, j'essaye de prendre une cuite un peu moins lourde. Non, je plaisante, mais vous voyez, je me restreins. Et puis dans ma vie intellectuelle, je cherche des raisons rationnelles de croire en Dieu. Je cherche des raisons qui accréditent, qui me font apparaître la foi et l'amour de Dieu comme quelque chose de peut-être au-delà de la raison, mais complètement rationnel, complètement Oui, rationnel.
Et on comprend bien que finalement, cette recherche de Dieu, elle engage le corps, l'âme et l'esprit.
La personne.
L'intelligence, oui, la personne.
Toute la personne.
Ouais, dans toute son unité. Ouais. Oui. Troisième demeure.
Alors, ce que je dois dire, c'est que pour la deuxième demeure, donc je commence à organiser ma vie autour du bien et inéluctablement, quand je choisis le bien, je dis non au mal.
Et oui, il y a un renoncement.
Et donc, c'est le début du combat spirituel.
Ouais.
C'est le début du combat spirituel. Et puis, je dirais qu'il y a une maturation et j'arrive au troisième demeure. Et le troisième demeure, c'est l'âge d'or de cette première étape de la vie spirituelle que j'ai appelée la phase méditative, où, si vous voulez, tous les efforts sont pour l'âme et je prie, je vis, je réfléchis à partir de l'extérieur de l'oignon, à partir du monde sensible. Voilà. Et là, si vous voulez, les troisièmes demeures, je suis arrivé à maturité de mon organisation par mes propres forces.
Mmh.
Je vais à la messe le dimanche. Donc, je respecte et j'honore les commandements de Dieu et de l'Église.
Et y compris dans ma vie morale.
Y compris dans toutes les dimensions de ma vie.
Dans toutes les dimensions de ma vie.
J'ai trouvé des raisons de croire. Voilà. Mais vous voyez, ma foi est encore... elle est soutenue par la grâce, par la vertu de foi reçue au baptême et je dirais confirmée à la confirmation. Mais elle s'appuie, elle a quelque chose de fragile encore parce qu'elle s'appuie sur des raisons humaines. Et puis, dans la dimension morale et spirituelle, et bien dans ma prière, pour prier, j'ai besoin de méditer. J'ai besoin d'utiliser ma raison, mon fond propre, pour, si vous voulez... faire jaillir mon acte de foi amoureuse, il faut que je fasse chauffer la machine pour qu'elle aille vers Dieu. Mais voyez bien que c'est de mon fond propre. Et Thérèse dit ceci, c'est l'âge d'or, c'est une étape de la première étape, de la première phase méditative. Mmh. Hein. Mais, donc, j'ai tout fait avec la grâce en dessous, mais avec mes forces, et c'est le moment où... et ça manque de folie, si vous voulez. Tout est à ma mesure.
C'est un peu scolaire.
C'est un peu scolaire, c'est le bon élève. Mais c'est nécessaire d'être bon élève. Voilà. Et là, eh bien, si vous voulez, le message que j'adresse à Dieu, parce que la relation, en fond, hein, c'est ce qu'on parlait de relation d'amitié entre l'âme et Jésus et Dieu, c'est une relation personnelle. Bon. Et là, pendant toute cette première phase, phase méditative, ces trois premières demeures, j'adresse un message au Seigneur, viens prendre la direction des opérations, viens prendre les clés de la maison ou de la voiture selon ses goûts ou ses
affinités
intellectuelles. Voilà. Mmh. Viens te rendre maître du château. Et alors, parce que je suis poussé par l'amour, comme je veux qu'il prenne ma maison, que je veux lui présenter la plus belle maison qui soit. Je veux que, voilà, bien le recevoir.
Alors, on va marquer une pause après cette phase méditative qui correspond aux trois premières demeures. Je vous propose d'écouter Nada Tétourbé, interprétée par les Frères de Saint-Jean.
Nada Tétourbé, Nada Tétourbé, Todo se passa.
Nada ne falha.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Quelles sont les sept demeures du château intérieur décrites par Thérèse d'Avila? C'est ce que nous découvrons aujourd'hui avec frère Benoît-Marie Carme au couvent de Toulouse. Nous avons vu avant cette pause musicale les trois premières demeures, la phase méditative. Et maintenant, nous allons voir les 4, 5, 6e et 7e demeures qui permettent d'approfondir finalement dans l'amour où le côté sensible va se retirer un petit peu et où l'Esprit-Saint va être à la manœuvre.
Exactement. La limite de la troisième demeure, c'est que l'âme s'est structurée, poussée par Dieu, c'est clair, mais à sa mesure humaine, donc limitée.
Avec sa vision.
Voilà, et avec sa vision, et donc avec ses péchés, avec ses limites. Non seulement sa limite, vous voyez, on pourrait dire métaphysique, ontologique, elle n'est pas Dieu. Donc, et elle doit accéder au monde de Dieu, mais avec ses défaillances morales, ses blessures. Et donc, Thérèse dit qu'il manque un peu de folie dans cette âme, et l'Esprit-Saint va commencer, si vous voulez, à saisir les deux facultés maîtresses dont j'ai parlé tout à l'heure, l'intelligence et la volonté, à partir de l'intérieur de l'âme, à partir de l'intérieur de l'oignon, pour, si vous voulez... guider directement l'âme vers Dieu. Et ça va passer par, c'est pas Thérèse d'Avila qui en parle, mais c'est Saint Jean de la Croix, cette étape des quatrièmes demeures où l'Esprit-Saint commence à prendre possession de l'âme. Vous voyez, au troisième, hein, l'âme dit « prends possession de moi ». Au quatrième, quand l'âme n'y pense plus, et d'une manière souvent à laquelle elle ne s'attendait pas, eh bien l'Esprit-Saint prend possession de l'âme, eh bien l'âme va être plongée dans la nuit souvent. Son intelligence va être obscurcie par trop de lumière pour elle. Et ça va être une nuit sensitive, une nuit d'essence. Ou si vous voulez, pour mettre un peu de souplesse dans cette âme qui s'est structurée, pour laisser l'âme s'adapter petit à petit au monde du divin, qui est le seul capable finalement de l'amener à Dieu. On peut dire que, c'est ma manière de voir, mais que l'Esprit-Saint va un peu perdre l'âme, voyez ? Il va la faire craquer, voilà, un petit peu.
C'est ce qu'on voit dans les vies de grands saints. On pense à, effectivement, Sainte Thérèse et puis Mère Thérésa qui a eu cette nuit de la foi.
Exactement. Ouais. Mais Thérèse, elle, va insister, Saint Jean de la Croix est le théoricien de la nuit. Thérèse, elle, c'est toujours positif. Donc Thérèse, plutôt que d'insister sur la nuit, donc sur ses effets négatifs, désagréables au plan de la sensibilité, va insister sur les effets positifs. Et notamment, elle va dire qu'à cette étape, l'Esprit-Saint va engendrer trois types de grâces. Une grâce qui a trois sous-catégories. la première, la grande grâce, c'est l'oraison de quiétude. Dieu va enflammer par son Esprit-Saint la volonté et va lui donner une appréhension quasi palpable de Dieu, agréable de Dieu, amoureuse de Dieu. Et puis, cette grâce, cette quiétude va, si vous voulez, se diffracter en trois possibilités. Soit, c'est ce qu'on appelle le recueillement passif, c'est-à-dire que à un moment de prière ou même au volant, alors que habituellement vous avez du mal à dire votre chapelet et à vous concentrer, eh bien en un instant, eh bien vous êtes concentré sur
présence.
Dieu, voilà, et c'est facile, et vous avez envie de dire au Seigneur que vous l'aimez, voilà. Ça arrive assez fréquemment, Parce que finalement, les quatrièmes demeures, disait le père Marie-Eugène, c'est l'apanage de beaucoup d'âmes. Et ensuite, c'est le sommeil spirituel. C'est-à-dire que là, l'Esprit Saint donne toujours dans la volonté, mais de manière beaucoup plus intense. Et tellement intense que l'intelligence ne fait plus attention à l'extérieur. C'est, pour ceux qui ont lu la vie de Saint Dominique Savio,
ah oui,
dans la vieille collection, là, on voit une image de Saint Dominique Savio qui s'agenouille et un jour va à l'église et il neige, l'église est fermée. Eh bien, il va rester 2 heures à genoux.
Devant la porte,
voilà,
de l'église.
Et il ne sent rien, il ne fait plus attention à rien. Et c'est parce que sa volonté est complètement saisie par l'amour de Dieu, au point qu'elle ça le pousse à faire abstraction de tout le reste. Voilà. Et puis, il y a une autre grâce où Thérèse d'Avila dit que l'on est à la fois Marthe et Marie. C'est pour ceux qui connaissent la petite Thérèse et qui ont lu sa vie, sa grâce de 8 jours sous le voile de la Vierge. Elle dit que quand elle était postulante, à un moment donné, pendant 8 jours, elle a comme été placée sous le voile, le manteau de la Vierge, et fait les choses comme si elle ne les faisait pas. Et là, si vous voulez, l'intelligence est libre, puisque Thérèse peut vaquer à ses occupations et en user. Mais l'influence de l'Esprit-Saint sur la volonté est considérable, parce qu'elle va faire ses actions tout en pensant l'Esprit-Saint, tout en étant enivrée d'amour.
Détachée finalement, voilà, de voilà, ce qu'elle fait. D'accord.
Voilà, en gros, les 3, si vous voulez, influences de l'Esprit-Saint sur la volonté. Hein. Cette étape des quatrièmes demeures pour Thérèse d'Avila, où l'Esprit-Saint commence à prendre possession de l'âme, eh bien l'Esprit-Saint va prendre possession d'abord de la volonté.
Est-ce que ça veut dire que pour les cinquièmes demeures, l'Esprit-Saint va prendre possession de l'intelligence ?
Exactement. Mmh. C'est ça la différence.
D'accord. Voilà. Et comment ça se passe alors ?
Alors comment ça se passe ? Il y a une grâce qui caractérise cette demeure, c'est ce qu'on appelle l'oraison d'union. C'est-à-dire que non seulement la volonté est prise par l'Esprit-Saint, mais l'intelligence est saisie. Et donc je perds conscience. Je perds conscience et c'est par des recoupements après coup que je peux dire, tiens, j'ai commencé l'oraison, j'ai commencé à regarder ma montre juste avant le début de l'oraison à 14h30, il est 16h, les frères sont plus là, je ne me souviens de rien, mon âme a été enrichie de quelque chose d'énorme.
Oui, c'est ça, c'était pas vain.
Voilà,
oui.
Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'oraison d'union, et qui, si vous voulez, est une union des 2 facultés directrices ou maîtresses de la personne humaine, non seulement la volonté, mais l'intelligence. Mmh. Voilà. Et c'est le fruit de cette union, c'est non seulement une purification de l'intelligence, donc qui se tourne davantage, si vous voulez, qui est comme adapté davantage à Dieu qu'au monde sensible, donc ça va l'aider à quitter le monde sensible davantage. Et puis l'autre fruit, c'est l'union de volonté avec le Seigneur, c'est-à-dire c'est le début de la sainteté.
Donc c'est ce que Dieu veut, je le veux.
Voilà,
c'est
fiat voluntas tua, hein, se réalise cette demande du Notre Père, que ta volonté soit faite. Mmh. Et ça, par grâce, c'est-à-dire que dès que un événement ou une volonté explicite de Dieu se manifeste à moi, eh bien j'y consens avec amour. Et je dirais avec une certaine souplesse et une certaine facilité.
Oui, voilà. Ce qui n'est pas forcément évident parce que tout ne se présente pas comme des roses.
Non, alors la sensibilité reste éventuellement blessée par des événements douloureux, mais ma volonté est rivée à celle de Dieu.
Mmh.
Et elle va... Vous savez, c'est l'explication des phrases des mystiques, celle de Thérèse, par exemple, qui disait « ou souffrir ou mourir ».
Oui, c'est ça.
Pour une âme comme la nôtre, ça paraît complètement dingue, et voire doloriste.
Oui.
Et en fait, non, c'est que, à partir de cette demeure, ce qui fait la joie de l'âme, c'est de faire le mieux possible ce que Dieu lui demande, y compris quand c'est difficile.
Et oui, bien sûr. Alors après, il y a ces 2 dernières demeures. La 6e, c'est ce que Thérèse appelle les fiançailles spirituelles.
C'est les fiançailles spirituelles. Et je dis aussi ce qu'en dit Saint Jean de la Croix, rapidement. C'est la nuit de l'esprit. Il y a eu une nuit des sens, au quatrième demeure, pour aider l'âme à aller vers l'intérieur et à suivre l'émotion de l'esprit. Et puis là, si vous voulez, c'est le déracinement de toutes les...
Les sécurités.
Oui, non. Mais surtout de toutes les mauvaises tendances. On a des mauvaises tendances qui sont des freins au consentement à la grâce.
Donc là, ce n'est pas forcément le péché mortel.
Non, là, toute personne des cinquièmes demeures, donc qui est déjà un peu sainte, qui a déjà dit oui, un oui massif à Dieu, eh bien, parce qu'elle a une histoire peut-être douloureuse, parce qu'elle a commis des péchés qui ont eu des conséquences dans son âme et dans sa chair même, eh bien, là, Dieu va purifier non pas à la jonction de l'esprit et des sens, mais il va, dans la substance de l'âme, il va arracher la racine des mauvaises tendances. Donc c'est une, dit Saint Jean de la Croix, une étape douloureuse, mais Thérèse, qui insiste toujours sur le côté positif, va dire que c'est là où il y a les plus grandes grâces. Et notamment, je vous en donne allez, quatre. Allez, je vous ferai un prix de gros. D'abord, les paroles intérieures. Il y a différents types de paroles, dit Thérèse d'Avila. Mais je retiens la plus importante. Il y a ce qu'on appelle les paroles substantielles, qui sont vraiment de Dieu et qui ne peuvent pas être contrefaites par le démon. Parce que à cette étape, le démon voit que l'âme est en train de lui échapper. Et donc, il va mettre le paquet pour singer Dieu. Et donc, où est-ce qu'il peut agir, le démon? C'est au niveau de la sensibilité. Donc, tout ce qui a un rapport avec la sensibilité à cette étape est dangereux. Je fais les choses un peu à la serpe, mais c'est ça l'idée. Donc, il y a des paroles qui peuvent être successives où j'utilise mon activité et des paroles qui sont données directement par Dieu. Par exemple, je suis dans un état de grande souffrance et puis j'entends au plus profond de mon âme le Seigneur qui dit « Sois en paix ». Et à l'instant même, c'est des paroles performatives qui réalisent ce qu'elles disent, je suis plongé dans ma paix. J'ai pas vu d'où ça venait. Ça fait un effet indéniable. Première grâce. Là, Thérèse dit, on ne peut pas en souffrir, ça ne peut pas être contrefait par Dieu, parce qu'il n'y a rien de sensible. C'est Dieu qui, dans la substance de l'âme, dans la substance spirituelle, grave ses paroles ou ses visions, on ne sait pas trop distinguer.
En tout cas, une certitude.
Une certitude, et on s'en souvient toute sa vie.
Ah oui, ça marque.
Et ce n'est pas courant de rencontrer des gens qui en ont eu. Voilà. Et puis, il y a aussi une grâce qui s'appelle la transverbération, qui est propre aux fondateurs d'ordre. La petite Thérèse, lors d'un chemin de croix, a été transpercée de part en part. Et puis Thérèse d'Avila, le 26 août, on fête sa transverbération, c'est-à-dire un ange qui lui transperce son cœur et qui la fait mourir d'amour, ou quasiment. Et puis, il y a deux autres grâces, c'est les visions imaginaires du Christ, par exemple, ou de la Vierge Marie, ou les visions intellectuelles. Et là, dans la vision imaginaire, eh bien, si vous voulez, non seulement mon intelligence, comme dans la grâce précédente de l'oraison d'union des cinquièmes demeures, eh bien, est neutralisée, mais l'imagination va être utilisée par l'Esprit Saint pour... si vous voulez, constituer une image du Christ. Voilà. Et puis, la vision intellectuelle, ce n'est pas avec mon imagination, ce n'est pas l'imagination que le Seigneur va utiliser, mais vraiment mon intelligence, et il va faire résonner mon intelligence de telle manière que je puisse comprendre, par exemple, un mystère comme celui de la Trinité.
Ah oui, voilà. Qui n'est pas négligeable. Oui. Ouais. Allez, dernière demeure, celle du mariage spirituel. Thérèse d'Avila l'a connue le 18 novembre 1572. Oui, oui. De quoi s'agit-il?
Eh bien, c'est le mariage, si vous voulez, c'est une union qu'on pourrait dire indestructible et indissoluble entre l'âme qui a été totalement purifiée, donc l'âme, âme et corps, la personne, qui a été, si vous voulez, restaurée, dans un état qui est comparable à celui d'avant la faute. Donc l'âme est totalement ordonnée vers Dieu, sa sensibilité ne cherche plus à des biens qui soient en concurrence avec le bien spirituel, avec Dieu, tout est unifié. Mmh. Et puis là, ce qui est nouveau, c'est que c'est dans la grâce du Christ. Donc il y a un enrichissement par rapport, évident par rapport à l'état d'avant la faute. Et c'est, pour Thérèse d'Avila, c'est au cours d'une communion. Elle avait alors il y a eu un ultime sacrifice que lui a demandé le Seigneur. Elle adorait les grandes hosties, communier avec les grandes hosties. Et puis, au moment où elle va communier, eh bien, cette fois-ci, le prêtre, elle ne sait pas pourquoi, coupe l'hostie en deux. Et elle accepte. Et cette ultime acceptation, eh bien, permet à son âme de ne faire plus qu'un avec l'âme du Seigneur. Voilà. Et le Seigneur lui dit, voilà, maintenant tu es mon épouse, oui, tes intérêts sont les miens, mes intérêts sont les tiens. Si vous voulez, le bien de Dieu et le bien de l'âme.
Mmh. Donc c'est pour ça qu'elle parle de mariage.
Et de mariage, parce que c'est indissoluble et que ça prend toute la personne.
Merci beaucoup. Merci, frère Benoît-Marie. Vous nous avez éclairé sur les 7 demeures décrites par Thérèse d'Avila qui symbolisent les étapes de la vie spirituelle. Et puis on peut évidemment lire son ouvrage, Le Livre des demeures ou Le Château intérieur.
Merci à vous.